Le brief spécial.
Bonjour à tous. L'issue était-elle prévisible? Peut-on encore sauver l'entreprise Van Hall? Le constructeur d'autobus basé à Lier s'achemine vers un dépôt de bilan ce dimanche. 2500 travailleurs sont concernés en Belgique. C'est un véritable drame social. Que vont-ils devenir? Nous allons retracer l'histoire de cette famille qui a présidé au sort de la société campinoise fondée en 1947 et nous allons essayer de comprendre ce qui a pu conduire à sa chute.
Un dossier chaud, décodé par l'écho.
En studio avec moi pour en parler, Serge Quadbach, rédacteur en chef adjoint à l'écho. Bonjour.
Bonjour Guillaume.
Et deux spécialistes en entreprise familiale, Eric Van Hoff de chez EY. Bonjour.
Bonjour Guillaume, ravi d'être parmi vous aujourd'hui.
Accompagné de Raphaël Matard, docteur en économie, fondatrice du cabinet d'expertise Cran et collaboratrice de HEC Liège. Bonjour.
Bonjour.
Je suis Guillaume Cordeau et vous écoutez le brief spécial Famille Van Hall, une entreprise en déroute. L'annonce de la faillite de l'entreprise Van Hall a provoqué une véritable onde de choc en Flandre et l'incompréhension dans tout le pays, Serge Quadbach. Expliquez-nous ô combien cette situation est un drame industriel.
Alors c'est un drame industriel d'abord parce qu'on parle simplement de beaucoup d'emplois. Certains comparent cette faillite d'ailleurs à la fermeture du site Caterpillar à Gosselies. À l'époque, c'était 2200 travailleurs qui avaient perdu leur emploi. Ici, Van Hall emploie 2500 personnes en Belgique, 2500 emplois potentiellement donc en danger. On est dans les mêmes proportions. Alors c'est aussi un drame industriel parce que Van Hall était une fierté flamande, une entreprise familiale avec un ancrage historique de plusieurs décennies et aussi un emblème visible sur les routes flamandes. Le nom était notamment inscrit sur les bus de Leyne. Van Hall, c'est vraiment une entreprise qui résonne dans le cœur des Flamands.
Dans cette affaire, tout est allé dans le mauvais sens en fait.
Alors la crise ne date pas d'hier, on savait que l'entreprise avait des problèmes de gestion, qu'il y avait aussi des problèmes au niveau des actionnaires familiaux, ce qui est jamais bon évidemment pour définir une stratégie. Et puis est venu en début d'année ce coup de tonnerre dans le paysage flamand, la société de transport public de Leyne, historiquement associée à Van Hall, qui préfère le chinois BYD pour une commande de bus électriques, un accord cadre qui porte quand même sur 500 bus au total, c'est pas rien. Et puis il y a cette dette colossale qui s'est accumulée au fil du temps, 400 millions d'euros, dont la moitié sont détenus par des banques, et les banques, justement, qui ont décidé de ne pas remettre la main au pot, donc la faillite était vraiment devenue inéluctable.
Alors, revenons-en aux origines, avec vous, Raphaël Matard. Que s'est-il donc passé pour que cette famille prospère, sombre dans le conflit ?
Bernard Van Hall crée une société florissante après la guerre, intéressant. Il a 10 enfants, 10 enfants dont 8 fils. Et après une carrière assez intéressante et impressionnante, il va nommer ses 8 fils chacun directeur. Et ses filles ne vont pas être prises en compte au niveau opérationnel dans l'entreprise. Et puis au-delà de ça, il meurt un jour subitement et ses fils héritent de l'entreprise et pas ses filles. 8 fils, c'est déjà beaucoup. 8 fils qui ont un poste de directeur, est-ce que nécessairement c'est intéressant pour l'entreprise? Parfois on oublie, c'est un patrimoine, mais c'est aussi un projet économique. Et tous les enfants ne sont pas toujours les plus compétents. J'ai cette phrase qui est exceptionnelle d'un jour d'une entrepreneur qui me disait « Malheureusement, mon fils ne le voit pas, mais dans notre famille, on n'a pas que des génies. » Et en fait, c'est un peu ça aussi. Il ne faut pas négliger l'aspect de la compétence et l'aspect de l'actionnariat. Deuxième problème, et là c'est un problème plutôt générationnel, plutôt sociétal, c'est d'avoir mis les filles de côté. Aujourd'hui, c'est différent et on voit d'ailleurs que ce qui pose problème dans la succession Van Hall, c'est que ce sont les enfants, les filles et les enfants des filles qui ne sont pas d'accord. Malheureusement, ces deux premières décisions ont fait qu'il y a eu un problème de communication, un manque de transparence et aussi des ressentiments. Et finalement, ben, on est tous sortis à couteau tiré avec des avocats et là, alors, on perd vraiment la force de la famille. Et last but not least, les parts ici sont sous séquestre. Et donc, en fait, c'est difficile d'avoir une certaine flexibilité. Ici, c'est assez juridiquement cadré.
Mais dites-moi, durant ces décennies, ces inimitiés n'auraient-elles pas pu être lissées par des accords? Finalement, est-ce la gouvernance seule qui pose problème ou aussi une question de stratégie d'entreprise?
Alors, dans l'entreprise familiale, il y a toujours la stratégie et la gouvernance d'entreprise. Ça reste une entreprise comme une autre, d'abord. Et puis, il y a la gouvernance familiale. Et ici, il semblerait qu'en fait, Van Hall a grandi très, très vite. Et la complexité de la famille a été très vite aussi. On est passé d'un homme à 8. et il n'y a pas eu ces anticipations d'outils qui doivent être mis en place. Parce qu'en fait, vous ne choisissez pas les actionnaires avec qui vous allez travailler. C'est pas comme quand vous créez une entreprise. En fait, comme ils héritent d'une part, vous allez devoir vous arranger les uns les autres. Je ne sais pas ce qu'il en est au niveau des conventions. On voit quand même que chez Vanhoole, il y a eu des rachats de branches, ce qu'on appelle des rachats de branches entre les frères et sœurs. Et c'est là où les conflits ont commencé en disant, mais les sœurs n'ont pas été rétribuées par rapport à ça. Et donc finalement, ici, à part la faillite, c'est compliqué de mettre quelque chose en place. Et fatalement, pour les potentiels racheteurs, on ne va pas se mentir. Au niveau économique pur et dur, c'est plus intéressant d'attendre la faillite parce qu'il y a quand même 400 millions qui sont derrière. Donc, on n'est pas sur un rachat classique. On est sur un tout qui a été extrêmement compliqué, mais par couche, comme une sorte de lasagne institutionnelle, mais au niveau entrepreneurial.
Et puis, Serge, le constructeur d'autobus a certes grandi vite, mais pas assez pour concurrencer les plus grands. Il n'a pas atteint la taille critique pour survivre.
Alors Vanhoole a une position paradoxale. En Europe, il figure parmi les grands acteurs européens, mais il ne bénéficie pas des avantages d'échelle des autres constructeurs de bus, des constructeurs qui peuvent s'adosser à des structures beaucoup plus grandes. Les bus Mercedes-Benz, par exemple, qui équipent la STIB à Bruxelles et le TEC en Wallonie. Ces bus appartiennent aux constructeurs de camions Daimler Trucks. Les bus MAN et Scania font partie de Volkswagen. Les bus Volvo, qui roulent aussi pour la STIB et le TEC, appartiennent à Volvo Trucks, qui fait aussi des camions. Donc ces entreprises peuvent s'appuyer sur leur maison mère en cas de crise, et ce qui n'est pas évidemment le cas de Vanhoole.
Ajoutons à cela la concurrence des bus électriques du chinois BYD. Vous venez d'en parler, Serge.
Oui, c'est un segment où Vanhoole est très en retard et qui est très gourmand en termes financiers. Donc effectivement, on le voit, Vanhoole est vraiment coincé, il n'a pas beaucoup de ressources pour rebondir.
Alors, penchons-nous à présent sur ce que vont devenir les salariés. 2500 travaillent sur les autocars de luxe en Belgique, on en a déjà parlé, mais aussi 1600 sur les autobus de ligne en Macédoine du Nord. Y a-t-il des chances pour que Vanhoole soit repris? Nous avons posé la question à Piet de Peut, journaliste spécialisé du Tate qui a suivi la saga familiale.
On ne sait pas encore. Il y a beaucoup de négociations qui se déroulent maintenant. Mais il y a certainement des chances pour garder au moins une partie des employés. En fait, en Belgique, il y a quand même des activités qui peuvent vraiment attirer d'autres investisseurs. C'est-à-dire, il y a les touring cars sur mesure, comme on peut dire, qu'on produit là-bas. Mais en même temps, il y a aussi une division de véhicules industriels qui sont quand même des perles intéressantes d'un groupe comme Vanhoole. Donc, je pense que oui, il y a des chances qu'on peut garder une partie des employés, mais en même temps, il y a donc beaucoup d'intérêts qui jouent, des parties différentes qui sont impliquées, les banques, les familles ou les branches des familles, le management, les syndicaux, et surtout aussi les parties qui s'intéressent aux activités.
Mais cette tragédie familiale et industrielle, pouvait-on s'y attendre en Flandre?
À l'automne, donc de l'année passée, on a reçu quelques signaux qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais en même temps, il y avait déjà des crises avant. Il y avait donc le Covid. Il y avait en même temps aussi des épisodes difficiles pour l'entreprise avec les prix d'énergie, avec l'Ukraine. Mais ce qui m'a surpris surtout, c'est le fait qu'il y avait une perte de cash flow très vite durant les mois les plus récents. Et ça, c'était vraiment quelque chose de surprenant.
Voilà, on a entendu Piet de Peut. Cette perte de cash flow, peut-on l'expliquer en deux mots, Serge?
Oui, les fonds propres de Vanhoole sont presque à zéro aujourd'hui. Hein. Le créateur parlait de 45 millions d'euros de cash flow nécessaires. Il y a aussi les arriérés de cotisations sociales, environ 40 millions d'euros. Il ne faut pas oublier qu'il faudra prendre aussi en compte les indemnités de licenciement. Donc en tout, on parle quand même de plus de 100 millions d'euros à trouver.
Donc Vanhoole, c'est le cas d'une famille qui se déchire. Est-ce un cas unique en Belgique? Je me tourne vers vous, Eric Van Hoff. Avec des conséquences d'une telle ampleur, a-t-on déjà vu ça?
Ça ne va pas toujours jusque-là, parce qu'il y a beaucoup de familles qui, soit s'entendent entre elles, trouvent des solutions, parfois vont jusqu'à se vendre des actions entre elles et couper des branches, comme on appelle ça. Donc ça arrive très régulièrement. Il y a aussi, je dirais, des choses qui peuvent être discutées, parfois même en justice, et trouver une solution comme ça. Le dépôt de bilan est plutôt exceptionnel.
Vous pouvez nous donner peut-être quelques exemples pour comprendre un peu comment les stratégies se nouent?
Alors souvent, ce qu'on essaye de trouver, c'est un bon équilibre entre les trois cercles, comme on les appelle, le cercle de tout ce qui est avoir, donc les actionnaires, le cercle de la famille, qui ne reprend pas forcément que des actionnaires ou des personnes qui sont opérationnelles. Hein. On pense aux enfants qui n'ont pas encore d'action, qui ne sont pas encore dans l'entreprise. On pense aussi aux conjoints, parfois, aux conjointes. Mais donc, la famille, l'actionnariat, et alors ceux qui seront actifs dans l'entreprise. Maintenant, ces trois cercles doivent faire l'objet d'une gouvernance. Et alors, on met en place une gouvernance familiale, une gouvernance d'entreprise, et on essaye de créer des ponts entre les deux. Et donc, l'actionnariat, souvent, c'est géré par l'Assemblée Générale, et donc c'est assez juridique. Quand on arrive à organiser ça de manière efficace, on crée les canaux pour canaliser les énergies. Et ces énergies peuvent être positives ou négatives, mais quand on a des canaux pour s'y rattacher, on arrive à solutionner les problèmes.
La Belgique a d'ailleurs une tradition de gestion et d'actionnariat familiaux. Vous me disiez tout à l'heure, Raphaël, que l'entrepreneuriat familial représentait plus de 73% de notre économie. C'est peu commun, Eric. Comment nous situons-nous par rapport à nos voisins ?
Non, alors c'est très commun hein, autour de nous. Si on prend les mêmes chiffres, la France, ça va être autour de 75-77%. En Italie, il y en a plus encore, ça va jusqu'à 90%. La Hollande aussi, il y a pas mal d'entreprises familiales, ils sont un peu comme en Belgique. Et alors, il y a tout le Mittelstand en Allemagne, donc on n'est certainement pas unique à ce niveau-là. La seule différence qu'il y a, c'est que, je dirais, la vieille Europe, on est déjà dans des générations assez avancées, parfois des sociétés ou des familles à la 7e, 8e, 10e génération. Et autour de nous, quand on sort de l'Europe, mais juste en Europe de l'Est par exemple, ils sont souvent à la 2e génération. Parce qu'ils ont commencé après le communisme, après les élections, etc., à se créer comme entreprise familiale. Même chose à Dubaï, au Moyen-Orient. Aux États-Unis, ils sont plus organisés autour de family office. En Asie, il y a parfois aussi une très longue tradition, au Japon par exemple, d'entreprise familiale, mais donc voilà.
D'expérience, comment s'organisent les familles qui rencontrent un certain succès entrepreneurial ? J'imagine qu'il n'y a pas une recette, mais peut-être quelques ingrédients indispensables à la réussite.
C'est positiver les choses et dire aux potentiels repreneurs, c'est-à-dire la nouvelle génération, que tout le monde peut trouver sa place dans les trois cercles. On peut être aussi bien un très bon actionnaire passif, on peut être très bien un bon administrateur qui n'est pas opérationnel mais qui donne une autre vision des choses. On peut aussi être un très bon opérationnel et gérer en tant que dirigeant l'entreprise. Mais chacun peut trouver sa place. Comme les statistiques le montrent, la transmission de la première à la deuxième génération, puis la deuxième à la troisième, sont compliquées. En fin de parcours vers la quatrième, on se retrouve avec 3% des entreprises qui survivent. Il y a un vrai challenge.
Raphaël, à la suite de l'annonce des difficultés de Van Hall, vous avez interrogé des familles à la tête d'entreprise lors de la cérémonie du Family Business Award qui se déroulait cette semaine. Quel regard porte-t-elle sur le cas du constructeur d'autobus ?
Il n'y a pas vraiment de surprise chez les entrepreneurs familiaux parce qu'en fait, c'est un tout petit monde et le cas Van Hall est quand même assez connu. On le sait depuis assez longtemps, ça fait presque 10 ans qu'il y a des conflits familiaux et en fait, souvent les familles font du mémétisme, elles se connaissent les unes les autres et donc il y a un peu de tristesse, il y a un peu de remise en question. Ça c'est intéressant toujours aussi, ces cas-là permettent souvent d'avoir des aspects très constructifs dans les autres familles sur tiens, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou comment est-ce qu'ils ont pu en arriver là, un aspect plus réflexif des familles en effet.
Serge Quadbach, rédacteur en chef adjoint à l'Écho, nous arrivons à la fin de nos échanges, je vous laisse le soin de conclure. Peut-on affirmer que la fin des activités de Van Hall, en l'état, c'est du gâchis ?
Alors, du gâchis, ce serait du gâchis si les actionnaires familiaux ne parviennent pas à se mettre d'accord. Hein. Un désaccord, ça pourrait refroidir terriblement les candidats repreneurs. Alors, pour les emplois perdus, ce sera aux politiques et aux organismes de placement de mouiller leur chemise. Et bien, pour le reste, Van Hall a encore de beaux outils à exploiter, puis depuis, il en a parlé. On entend qu'il y a des repreneurs intéressés. Donc, si tout se passe bien, on devrait pouvoir limiter la casse et surtout redonner une certaine fierté au nom de Van Hall.
Merci Serge d'avoir été avec nous. Merci Raphaël Matar et Eric Van Hoof de vous être déplacés. Et voici ce qu'il faut retenir de cet épisode. Tout d'abord que la famille Van Hall a été victime de la dispersion de la gestion d'entreprise et des querelles entre frères et sœurs. Ensuite que la situation d'entreprise était délicate avec une concurrence qui a plus de moyens qu'elle. Enfin, qu'il y a encore des chances que certains salariés soient repris avec une poursuite partielle de l'activité grâce à de nouveaux investisseurs. Ce brief spécial a été préparé avec l'aide de Simon Souris. Très belle journée à tous et à bientôt.